Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La pandémie rebat toutes les cartes de l'économie, de la culture, de nos vies, de l'école et bien sûr aussi de la politique. Comment justifier l'insupportable? Comment garder le contrôle quand justement rien n'est prévisible? Chaque gouvernement en Europe est impacté différemment par le Covid, à commencer par la Pologne, qui vit l'une des pires crises politiques de la décennie. La mobilisation de la rue s'est faite cette fois contre une nouvelle disposition législative qui voulait limiter encore un peu plus le droit à l'avortement dans le pays. Les citoyens et citoyennes sont descendus manifester en masse en dépit de toutes les injonctions sanitaires qu'a voulu mettre en avant le gouvernement ultra-conservateur. La démocratie à l'épreuve du virus, c'est le reportage à Varsovie de Sarah Bakaloglou.
Dans le centre de Varsovie, en cette fin d'après-midi, un petit groupe de manifestantes se prépare à marcher, entouré par plusieurs camions de police. Ce sont les grand-mères polonaises, un mouvement créé il y a 2 ans, regroupant des femmes entre 65 et 80 ans, qui dénoncent les dérives autoritaires du gouvernement. Et lorsqu'on demande à leur chef, Ivona, 67 ans, si elle a peur de l'épidémie de Covid, la Polonaise aux cheveux rouges n'hésite pas une seule seconde.
Non, parce que je suis tellement en colère que je m'en fiche. Certains d'entre nous ont décidé de rester à la maison, mais d'autres ont décidé de manifester. Et je ne ferai pas cette faveur au gouvernement, parce que c'est une question politique. Le gouvernement a voulu utiliser la pandémie pour nous stopper et nous demander de rester à la maison. Même la police m'a dit, à votre âge, vous devriez rester chez vous. Non, non, non et non.
Non, non, non.
Car le tribunal constitutionnel a rendu sa décision sur l'avortement le 22 octobre dernier, en pleine pandémie de Covid-19, et alors que le pays connaît des nombres records de contamination et de morts. Sauf que l'ampleur des manifestations est en fait inédite dans tout le pays, et les mots de Jarosław Kaczyński fin octobre sont très mal perçus par les manifestantes. Le chef du parti ultraconservateur au pouvoir les accuse de propager le virus.
Ces manifestations vont coûter la vie à de nombreuses personnes. Celles et ceux qui les organiseront, qui participeront, vont entraîner un grand danger. En faisant cela, ils commettent un crime sérieux. Les autorités n'ont pas seulement le droit, mais aussi le devoir de s'y opposer.
Pour certains observateurs, laisser le tribunal constitutionnel prendre une telle décision sur l'avortement est une manière pour le gouvernement de détourner l'attention de sa gestion très critiquée de l'épidémie et de son manque de préparation pour cette deuxième vague de Covid-19. De moins de 500 cas au printemps dernier, la Pologne a ces derniers jours dépassé la barre des 20 000 contaminations et la situation dans certains hôpitaux est critique. Cela participe à la colère des manifestantes et manifestants. Pour Agnieszka Graf, elle est chercheuse à l'université de Varsovie.
La principale raison pour laquelle les Polonais acceptaient de tolérer ou même de soutenir le gouvernement autoritaire, c'était parce qu'ils se sentaient en sécurité. Mais le gouvernement n'a plus aucun contrôle aujourd'hui. Et ce que font les autorités, c'est qu'elles accusent les autres pour cette défaillance de l'État. Accuser les manifestants de propager la pandémie, accuser les docteurs pour la situation dans les hôpitaux. Et les sondages montrent que même les électeurs du parti au pouvoir ne soutiennent plus ce parti.
Face aux interdictions de rassemblement de plus de 5 personnes, les grand-mères polonaises se sont organisées. Ce soir-là, plusieurs petits groupes ont été prévus, mais le rassemblement attire un peu plus de monde. Et depuis plusieurs jours, les verbalisations par la police sont devenues plus fréquentes. Magda, venue à vélo du travail pour jeter un œil, en a fait les frais.
Ce soir, je n'étais même pas sûre d'aller manifester. Je revenais du travail, j'ai toujours ma petite pancarte pour le droit des femmes avec moi. Je voulais juste voir ce qu'il se passait, mais la police a quand même voulu me mettre une amende à cause du Covid. Mais normalement, les manifestations spontanées ne sont pas interdites. D'une certaine façon, ils m'ont poussé à manifester en me verbalisant.
Et d'autres rassemblements sont prévus cette semaine malgré le risque de verbalisation. Ce mercredi, c'est devant le Parlement que les manifestantes et manifestants se sont donné rendez-vous.
isolation slowed the growth. COVID-19 here to stay. Psych cure is on its way.
Fiasco, c'est ainsi que l'on peut résumer de manière simple et claire la situation politique en Irlande. Le Premier ministre Micheál Martin, qui, rappelons-le, a pris la tête du gouvernement de manière tournante après un accord de coalition, bat des records d'impopularité. 11% d'opinions favorables, difficile de faire pire, mauvaise gestion du Covid, disent les sondés, charisme défaillant, sans compter un scandale lié au Covid et qu'on appelle le Golfgate, récit d'une saga dont on n'en a pas encore écrit l'épilogue avec Emeline Vin à Dublin.
Premier épisode, celui où l'on joue au golf. Nous sommes le 19 août, la Société parlementaire de golf, un club qui rassemble des députés, des sénateurs, mais aussi des ministres et des journalistes, organise un tournoi de golf et un grand dîner autour de 80 personnes. Problème, à l'époque, les recommandations sanitaires n'autorisent pas les rassemblements de plus de 50 personnes. Deuxième épisode, celui des démissions après le scandale provoqué par ce banquet très déconfiné. En l'espace de quelques jours, le ministre de l'Agriculture quitte son poste, l'un des animateurs phares de la radio publique part prématurément à la retraite. Plusieurs chefs de groupe de la majorité quittent leurs fonctions au sein du parti. Le Golfgate aura même raison du commissaire européen au commerce Phil Hogan, présent au dîner alors qu'il était censé restreindre ses mouvements puisqu'il revenait de Bruxelles. Troisième épisode, le dernier pour le moment, celui où le juge refuse de partir. Parmi les invités au dîner, il y avait Seamus Woolfe, un juge de la Cour suprême. Une enquête interne à la justice estime que M. Woolfe a manqué de bon sens. Mais comme les recommandations ne sont pas des réglementations, il n'a pas enfreint de loi et ne peut donc être contraint à la démission. Seamus Woolfe a également refusé de se présenter à 4 convocations du président de la Cour suprême, officiellement pour raison médicale. Ce dernier réclame aujourd'hui sa démission par respect pour les Irlandais qui, eux, suivent les mesures anti-Covid. Refus ferme de l'intéressé, le gouvernement continue de conduire des réunions transpartisanes pour déterminer s'il faut en arriver à l'impeachment, un renvoi pur et simple par le Parlement. Ce serait inédit, comme la crise du Covid.
C'est un tout petit pays, 2 millions d'habitants, avec une faible densité démographique, certes, mais la Lettonie, ce petit pays du nord de l'Europe, situé sur les bords de la mer Baltique, s'en sort très bien. 126 morts à ce jour dus au Covid. Alors le nombre de contaminations est en hausse avec cette deuxième vague, mais la ministre de la Santé reste toujours très très populaire. Reportage dans les pays baltes de notre correspondante Marielle Vituro.
Ces derniers jours, les rues de Riga se sont un peu vidées. Depuis le 6 novembre, la Lettonie a de nouveau proclamé l'état d'urgence. Le pays enregistre chaque jour 300 nouveaux cas, une hausse sans précédent. Depuis la fin septembre, le nombre de contaminations a été multiplié par 10. Les cafés et les restaurants ont donc de nouveau fermé. Un nouveau tour de vis qui, curieusement, semble épargner la ministre de la Santé, dont la popularité ne faiblit pas. Ilze Vinkele a laissé aussi la nature en libre accès. Elle sait que le plein air aide à réduire le stress engendré par la pandémie. Une fenêtre de liberté qui s'explique facilement pour la ministre de la Santé.
La démographie joue pour nous. En Lettonie, nous avons beaucoup moins d'habitants au kilomètre carré que dans de nombreux pays européens. Nous avons une multitude de coins de nature où nous pouvons nous rendre en y étant seuls et en sécurité. Nous subissons une dépopulation en d'autres circonstances. C'est un problème, mais en temps de pandémie, c'est une ressource que nous devons utiliser.
Félix, futur urbaniste, le remarque aussi quand il se déplace dans Riga.
Riga, c'est quand même largement plus grand que Paris pour une population qui est 5 fois inférieure. Donc c'est aussi moins stressant de se déplacer. On croise moins de monde, les trottoirs sont plus larges. Donc il y a quand même une grande partie de la population qui est assez heureuse d'avoir des restrictions moins strictes et qui du coup préfère vraiment faire attention.
Les mesures anti-Covid sont relativement bien acceptées en Lettonie. Les méthodes de communication très variées de la ministre en poste depuis janvier 2019 y sont aussi pour quelque chose. Cette ancienne ministre des Affaires sociales donne régulièrement des interviews, mais elle tient aussi un blog, publie sur les réseaux sociaux en son nom propre et de manière très franche. Elle s'adresse même parfois aux enfants, comme pour la fête d'Halloween.
I guess that...
Je suis allée dans le magasin d'à côté, j'ai acheté quelques décorations d'Halloween, j'ai fixé les toiles d'araignée au mur dans mon bureau avec du scotch et mon collègue m'a filmé avec son iPhone. C'est une fête importante pour les enfants et comme cette période est plutôt grave, nous avons décidé de leur envoyer un message.
Elle leur a demandé de piéger le virus en n'allant pas de porte à porte demander des bonbons. En Lettonie aussi, ces dernières semaines, le virus est devenu difficile à combattre. Mais la cote de confiance de la coalition de droite au pouvoir reste haute. Le président vient de lui accorder tout son soutien. Mais les restrictions commencent tout de même à peser et le système de santé est ébranlé. Si les chiffres ne baissent pas, même la très ouverte et compréhensive ministre de la Santé pourrait imposer un tour de vis supplémentaire.
Il est interdit de se rassembler, de s'embrasser et de se serrer la main en même temps.
Et en Grèce, les choses sont peut-être en train de virer au rouge pour le jeune gouvernement du conservateur Kyriakos Mitsotakis. Jusqu'alors, le pays qui reconstruit difficilement son économie a été relativement épargné par la pandémie. Mais le virus revient en force, si bien que le gouvernement prend quelques libertés avec les chiffres qui viendraient annoncer une nouvelle crise. Pour en parler, on retrouve Joël Bronner à Athènes. Bonjour Joël.
Bonjour.
Avant tout, quel est l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le pays ?
Lors de la première vague, au printemps, la Grèce a été relativement épargnée par le coronavirus, avec moins de 200 morts officiellement recensés. Ce plutôt bon résultat s'explique à la fois par des mesures politiques, en particulier le confinement, imposé en amont de la progression du virus dans le pays, mais aussi par le facteur chance, avec un flux de touristes et d'hommes d'affaires limité en cette saison. La seconde vague, elle, semble frapper bien plus intensément ce petit pays de 11 millions d'habitants. Ce week-end, le nombre de décès officiels vient en effet de dépasser le seuil des 1000 morts depuis le début de la pandémie. Et en novembre, en seulement 10 jours, ce sont ainsi 400 décès qui ont été constatés, alors que les hôpitaux, en particulier dans le nord du pays, sont eux à la limite de la saturation.
Et quel est l'enjeu politique de cette gestion du Covid, Joël ?
Le gouvernement grec conservateur du parti Nouvelle Démocratie est somme toute assez neuf, puisqu'il n'est au pouvoir que depuis l'été 2019. À sa tête, le premier ministre Kyriakos Mitsotakis est arrivé avec un programme orienté en grande partie vers l'encouragement d'investissements étrangers et la relance d'une économie qui commençait à peine à se relever de 10 années de crise. La pandémie actuelle contrarie bien évidemment ce plan initial, puisque les différentes mesures restrictives mises en place mettent à mal de nombreux pans de l'économie. Pour ne pas perdre la bataille de la légitimité politique, le gouvernement insiste donc avant tout sur une gestion générale jugée meilleure que celle des voisins européens et sur l'importance de l'action étatique, quitte à abreuver les citoyens grecs de chiffres destinés non pas tant à les informer précisément de l'évolution de la situation pandémique, qu'à simplement occuper le terrain de la communication en temps de crise.
Et justement, de quelle manière le gouvernement communique-t-il ? Il multiplie l'annonce de données chiffrées, mais pas toujours pertinentes.
Au quotidien, via entre autres des plateformes de messageries instantanées, Athènes annonce le nombre de décès, le nombre de nouveaux cas détectés ou de personnes en soins intensifs, mais sans indiquer le nombre de tests pratiqués par jour. Exemple, le 13 novembre, les autorités annoncent la détection de plus de 3000 nouveaux cas positifs, et environ moitié moins de cas seulement 2 jours plus tard. Le problème, c'est que ces chiffres sont vides de sens puisqu'ils ne sont pas mis en relation avec le nombre de tests quotidiens qui, en l'occurrence, étaient eux aussi à peu près divisés par 2 entre les 2 dates. Donc ce qui ressemble à une information, au final, n'en est pas une. En communiquant uniquement le nombre de tests effectués depuis février, un nombre qui a par ailleurs dépassé les 2 millions la semaine dernière, les chiffres quotidiens sont rendus invisibles et seule demeure l'idée, puisque le chiffre de test est impressionnant, que le gouvernement est au travail et fait de son mieux. L'évolution réelle du virus semble au final importer assez peu.
Merci Joël Bronner à Athènes. Couvre-feu, confinement, quarantaine, voilà des mots que nous utilisons désormais quotidiennement. Pour notre chronique En un mot, on a donc décidé de décortiquer le mot quarantaine, un mot aux résonances bibliques qui a été utilisé par le passé à Venise, quarantena, pour protéger ses habitants de la peste. Toutes les explications depuis Rome avec notre correspondant Olivier Bonnal.
Quarantaine, période de ségrégation et d'observation à laquelle sont soumises les personnes et les objets considérés comme susceptibles de porter les germes de maladies infectieuses exotiques. Voilà la définition qu'en donne l'encyclopédie italienne Treccani, qui fait référence dans la péninsule. Un mot qui aurait pu rester figé dans un dictionnaire ou un livre d'histoire, mais qui est revenu dans le vocabulaire quotidien pour la plus grande surprise de Federico.
Il y a encore quelques mois, je l'associais à mes lectures, à une chose très lointaine qui remontait au temps de la rougeole ou de la rubéole. Et là, c'est devenu un mot que tout le monde emploie, un mot du quotidien qui a perdu complètement son aura un peu mystérieuse du passé.
Si l'on demande aujourd'hui à un Italien ce que signifie pour lui le mot quarantaine, il y a de fortes chances d'avoir des réponses très différentes, comme pour Claudia et Giuseppe, qui font la queue devant l'un des cafés les plus célèbres de Rome.
Ça dépend, la première chose qui me vient en tête, c'est restrictions et manque de liberté.
Pour moi, fondamentalement, la quarantaine, je vois cela comme un moment de réflexion, un moment durant lequel une personne, une communauté ou une nation s'arrête pour faire le point, un moment pour réfléchir parce que la pandémie, l'autre mot lié à la quarantaine, doit nous faire comprendre que l'on s'est trompé quelque part.
Mais pourquoi s'être arrêté sur une période de 40 jours? Certains remontent à la Grèce antique et à Hippocrate. Le père de la médecine avait en effet observé un basculement après 40 jours. Soit un malade mourait, soit il était guéri. Si aucune théorie scientifique ne prouva que la durée de cet isolement avait une incidence réelle sur la diffusion de la maladie, c'est bien ce chiffre qui est retenu. Un chiffre qui a des racines profondes, avant tout religieuses, comme le rappelait sur la RAI le linguiste Giuseppe Patotta, professeur à l'université de Sienne.
Il est évident que le mot « quarantaine » dérive du chiffre 40. Et en effet, pour former le mot, a été ajouté le suffixe « n », que l'on retrouve aussi dans « neuvaine ». Un mot qui, dans la langue italienne contemporaine, indique une période de 9 jours qui servent à préparer une fête religieuse, à honorer un saint ou demander une grâce avec des prières ou des actes de piété faits individuellement ou collectivement.
Selon Giuseppe Patotta, le suffixe « n » ajouté à 40 renvoie donc à un contexte religieux. Dans la tradition biblique, le chiffre 40 est partout. Moïse a traversé le désert 40 ans avec le peuple juif. Jésus, lui, y a passé 40 jours tenté par le démon. 40, c'est aussi le temps du carême pour les chrétiens, la période qui précède la fête de Pâques. Mais pour comprendre la quarantaine, c'est à Venise qu'il faut se rendre. C'est là, au milieu du XIVe siècle, alors que la peste menace la ville, que les premiers navires et leurs équipages sont mis à l'isolement pour ne pas propager l'épidémie. Quarantena a toujours fait partie du champ lexical vénitien, même si le sens du mot s'est un peu perdu au fil du temps, surtout en cette année de crise sanitaire où il est dans toutes les bouches. C'est ce que déplore l'écrivain vénitien Roberto Ferrucci.
Il y a des mots qui ont perdu la signification. Si on sort aujourd'hui pour parler avec des Vénitiens et demander à eux par rapport à la quarantaine c'est comme si on, quand on fait une recherche sur Google, il n'y a que des liaisons entre ces mots et le Covid-19. Je crois que c'est plutôt compliqué pour n'importe quel Vénitien en fait, d'ancrer ce mot à son histoire, c'est-à-dire à ses origines, à penser à la quarantaine de la peste. Je crois qu'on a perdu un peu le sens de ce mot-là. Je ne sais pas si on l'avait déjà un peu perdu avant, parce que de toute façon, on utilisait déjà le mot quarantaine un peu abusivement, j'ose dire. Et aujourd'hui, il est totalement lié au Covid-19.
L'utilisation du mot quarantaine a retrouvé son sens originel cette année en Italie avec la crise migratoire. Des navires de quarantaine ont été déployés au large de Lampedusa et de la Sicile pour mettre à l'isolement les migrants suspectés d'avoir le Covid. Des navires qui patrouillent toujours le long des côtes de l'Italie. Aujourd'hui, le mot quarantaine est réapproprié par les adolescents, comme Rico et Sarah qui se sont filmés en train de danser sur l'application TikTok. Un moyen de rendre plus léger cette période de privation, selon Rico.
Ça parle de la quarantaine, pour dire que nous sommes tous plus ou moins contraints de rester chez nous. Et on en a fait une petite chorégraphie. Pour nous, la quarantaine, c'est plutôt une situation difficile, parce que la majeure partie du temps, on doit rester à la maison. C'est pas une situation idéale, car on n'a plus la vie sociale que l'on connaissait avant.
Chacun, finalement, semble avoir son idée de la quarantaine, en espérant laisser cette épidémie derrière soi, un temps où l'on espère surtout que cet isolement forcé sera bientôt de nouveau relégué dans les livres d'histoire.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.